Voisin, le progrès n'y voit pas plus loin que son nez. Et c'est de là qu'il tire sa force et ses avantages. Car, comme tous les gens qui ne voient pas plus loin que leur nez, il est têtu, opiniâtre. Sur cette tête carrée, le raisonnement s'use sans y pénétrer. Cela lui donne un certain air de force que les gens aiment. Tandis que nous autres experts, nous doutons souvent, car enfin, voisin, quand on réfléchit, quand on approfondit, de quoi est-on bien sûr ? Lui, il ne doute pas, il va de l'avant. C'est sa seule affaire, sa seule pensée. Vigoureuse, parce qu'elle est bornée, forte comme six bœufs, parce qu'elle est unique, qui ne demande encore qu'à rompre les traits pour aller plus vite. Et les passants qui voient tant de feu, tant de vigueur, s'y laissent prendre. Ensuite, voisin, comme tous les gens qui n'y voient pas plus loin que leur nez, la nouveauté le séduit avant tout. Il trouvera meilleur le chocolat blanc, soyez-en certain, eût-il un vilain goût de plâtre, parce que, moderne pour lui, c'est bon. Connu, ancien, c'est mauvais. Il est donc toujours pour le nouveau. Or, vous savez que c'est un goût assez général, un penchant de l'espèce. Cela lui vaut du monde, et sa bouillie a de la vogue. De plus, voisin, comme les gens qui n'y voient pas plus loin que leur nez, il ne comprend que ce qui est prochain, immédiat. Après le nouveau, il aime le positif. Ce qui va au fait, tout droit, en un saut. Son affaire est de supprimer l'indirect, l'intermédiaire, qui est souvent l'essentiel, l'utile. Et croyez-vous donc, voisin, que s'il n'était pas fait ainsi, le progrès, il dirait comme il le dit, le latin au latiniste ? Bien sûr que non. Mais ici comme ailleurs, et par les mêmes causes, il méconnaît le seul principe sur lequel on puisse et doive baser la première instruction, l'exercice et le perfectionnement de l'intelligence. Pour l'enfance, après la moralité, c'est là l'essentiel. Tout le reste est accessoire. Eh bien, pour pratiquer cet exercice, pour obtenir ce perfectionnement, on avait entre autres moyens le latin, étude complexe, réunissant la richesse et la diversité des éléments à la perfection des méthodes, joignant, quant à son utilité, l'autorité des faits à celle de l'expérience. En telle sorte que bien des gens pensaient, et moi parmi, que cette supériorité moyenne de capacité dont on fait honneur à certains pays, et au nôtre parmi, tenait pour peu ou pour beaucoup à ce que tous, peu ou prou, nous avions été dans la première enfance, façonnés par d'habiles maîtres, au moyen d'un instrument supérieur et de méthodes éprouvées. À tous, un peu de ceci était précieux, et non pas aux latinistes seulement. Il y a horloger et horloger, commerçant et commerçant, industriel et industriel. Or, toute chose égale par ailleurs, à quoi attribuerez-vous la distance qui vous frappe de l'un à l'autre ? Et je dirais de l'un de notre pays à l'un d'un autre, si ce n'est à une supériorité, non de connaissance peut-être, mais d'intelligence et de culture, d'aptitude à concevoir, à embrasser, à saisir avec justesse, à procéder avec méthode. Et cette supériorité, de quoi serait-elle le résultat, plutôt que de ces exercices gradués, laborieux, si propres à former et à étendre les facultés qui, insuffisants pour le plus grand nombre quant à la possession de telles langues mortes, ne le sont jamais quand on progrède l'entendement ? Mais l'autre n'entend pas ça. Il dit au père de famille « le latin au latiniste ». Et cette idée frappe les pères de famille. Pour le commerce, ayez la calligraphie. Pour la banque, les chiffres. Pour les arts, le dessin linéaire, c'est-à-dire le procédé du compas et de la règle. pour tous l'allemand, parce que l'allemand, parce que l'allemand, parce que l'allemand, répètent les pères de famille. Et cette idée les frappe aussi. Moins de temps et moins d'argent, et cette idée les frappe encore plus.
Jega foto masera jama Eye bali mau yo Jega foto masera jama Ram para ram pa Jega foto masera Kokanu nyonga sigika kuma Jega foto masera Kufuru nyonga sigika kuma Jega foto masera Kubale mawa sigika kuma Jega foto masera Kusinji mawa sigika kuma Eye mbali mawyo ho Jega foto masera jamha Rampara rampa Sina mauga sigi boya Mune be sigi boya Sina mafilati sigi kapuma minge Ode be du boya Sina mauga du boya Mune be du boya Bale mafilati jega kuma minge Ode be du boya Bale mauga du boya Mune be du boya Sini mafilati sigi kapuma minge Ode be sigi boya Bale mawa sigi boya Mune be du boya Jamana filati jega puma minge Ode be du boya Kumasa keuka du boya Eye bali mau yo ho Jega foto masera jama Rampararampa
Donc Mamani Keita, Jekafo, un titre extrait du catalogue du label No Format, dont Emma nous avait parlé déjà il y a quelques temps.
Oui.
Et ce que j'ai lu auparavant, c'était un extrait de Rodolphe Töpfer, de son livre Du progrès dans ses rapports avec le petit bourgeois et les maîtres d'école, aux éditions Le Temps qu'il fait.
Dont tu avais déjà lu un extrait.
Oui, un extrait d'avant, du début du livre, dans une émission précédente. Et donc j'ai oublié de lire le dernier paragraphe, qui est assez éclairant sur l'optique de tout le livre.
Ouais.
Donc quitte à paraître un peu réac, comme on paraît toujours réac quand on a l'air de dire que le progrès c'est pas tellement bien. Enfin, c'est pas forcément bien. Je lis juste ce petit paragraphe qui complète le laïus pour défendre le latin. Et notez qu'il résulte de ceci une chose risible. Je veux dire une chose bien triste, voisin. C'est que le progrès, qui travaille réellement là, contre les vrais principes de l'égalité sociale, contre ce qui favorise l'émancipation intellectuelle du plus grand nombre, passe pour l'ami suprême, pour l'ami unique, breveté, de l'émancipation, de l'égalité. Tandis que nous, qui voudrions, tout en rendant autant que possible les hommes égaux par l'intelligence, ne barrer à aucun l'abord aux carrières élevées où aboutit le latin, on nous traite d'exclusifs, d'aristocrates. On nous appelle perruques.
Ah non, mais ça valait vraiment le coup, oui.
C'est pas mal.
Ah oui, c'est une... Oui.
Donc, voilà, dans ce livre, Rodolphe Töpfer, qui était, comme on a déjà dit, instituteur en Suisse, et pas seulement dessinateur, règle un petit peu son compte à l'idéologie du progrès, qui, en ce début du 19e siècle, avait, ma foi, le vent en poupe.
C'est fou, parce que maintenant, au début du 21e, on n'a plus rien à foutre du progrès.
Et ni du latin, ni de l'allemand.
On est revenu dans nos champs, tranquillement.
Oui, tout à fait.
Enfin, il y en a pour qui le progrès, c'est porter des Ray-Ban, ou... dans quelques lire contrées, lire des e-books qui ne sont pas des animaux
inuits.
Non, pas du tout. Voilà, donc bonsoir public.
Vous êtes on a oublié de dire
on
que
est
ce
là
soir,
pour ça et on est trois ce soir.
Voilà, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9. C'est on est là pour ça avec ce soir Emma.
Bonsoir.
Hélène.
Bonsoir.
Et Thomas. Bonsoir.
Voilà, qui a déjà presque annoncé ce dont quoi je vais parler tout de suite, c'est-à-dire les e-books, puisque j'étais récemment au Salon du Livre électronique et papier de Paris. Non, c'est pas vrai, c'est Salon du Livre, mais ils ont présenté, merci Hélène, ils ont présenté donc les readers. Qu'est-ce que c'est un reader? C'est une petite tablette électronique qui ressemble à un gros Blackberry, si vous voyez, un gros...
C'est quoi un Blackberry?
Un gros...
C'est un héros de BD?
C'est une chanson.
Oh, Blackberry. Voilà. vous voyez, quand on était petit, on avait un peu des ardoises magiques.
Ah oui, alors oui, il faut voilà, ouais. Voilà,
des télécrans, ouais.
Voilà, des télécrans. Bon, et ben c'est un peu la moitié du télécran avec des petits boutons. C'est très léger, ça pèse en général entre 400 et 700 grammes, et ça permet de lire un livre électronique. Voilà. Donc il y en a en tout 5 aujourd'hui. Il y a 5 fabricants. Alors ça porte plusieurs noms. Ça peut s'appeler un reader, mais bon, c'est pas français. Au Québec, ça s'appelle un livrel, livre électronique. Et quelqu'un donc en France souhaite que ça porte le nom de liseuse, mais c'est pas terrible non plus. Donc voilà, on peut pas trop l'appeler un e-book parce qu'on confondrait à la fois le contenant et le contenu, puisque un livre électronique c'est aussi un e-book, un internet book. Enfin bon, bref. En tout
oui,
cas, donc
c'est-à-dire que les caractères électroniques qu'on peut s'envoyer par mail, par exemple, c'est un e-book. Si je t'envoie une nouvelle de Zola, par exemple, qui tient sur
et ben voilà,
15
c'est ce
pages Word,
je
c'est un e-book,
en train
c'est ça
de dire.
Voilà. J'essaie de traduire ce que je voyais la tête de Thomas, il avait
ah oui,
rien.
C'est vrai que là, on est tout près de Thomas. D'habitude, il est derrière la vitre, là, il nous fait des grimaces, mais là, on est tout près. Donc voilà, alors il y a 5 fabricants, il y a donc 2 Européens, un Japonais, un Américain et un Chinois, mais moi je vais simplement vous parler de ceux qui sont les plus, enfin les deux principaux et ceux qu'on peut trouver en France très rapidement. Donc le premier vraiment à l'avoir lancé, enfin sur un gros marché, c'est Sony, donc son reader qui permet de stocker 160 ouvrages et qui a une assez longue autonomie, mais qui en a vendu que 5 à 10 000 au Japon. Donc quand même, ça ne concurrence pas. On ne peut pas dire ça comme ça. Pour eux, ce n'est pas un bide, parce qu'ils ont, ils ont joué le manque, quoi. Ils ont tout de suite... c'est en rupture de stock, quoi. Voilà, mais c'est souvent comme ça. Il paraît qu'il y aurait quand même un marché de 100 000 exemplaires. Donc ils se perfectionnent encore. Parce qu'il faut quand même réaliser que l'e-book aujourd'hui, c'est un peu à l'état du Minitel avant l'ordinateur. Voilà, avant Internet. En fait.
Ça n'est pas l'iPod, quoi. En
fait. Non, voilà, c'est pas encore ça, parce qu'il y a encore des boutons, c'est pas très ergonomique, notamment le Sony qui a un peu des boutons partout. Enfin, c'est sorti seulement au Japon, mais ça va arriver donc en Grande-Bretagne cet été, et c'est déjà la guerre entre éditeurs pour numériser tous ces livres-là et les mettre au format, parce qu'il y a plusieurs formats, il n'y a pas encore de format idéal, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'encre électronique, en fait, elle n'aime pas le temps qui passe, contrairement à ce qu'on peut avoir, enfin, pensé, ça, voilà. J'ai oublié de dire qu'en fait, il y avait 5 fabricants de readers, mais un seul fabricant d'encre électronique qui a tout le marché, c'est un Taïwanais qui s'appelle PVI.
Et donc, voilà. En fait, ça veut dire que chaque fabricant de readers doit travailler une encre électronique. Le e-book, c'est un système d'affichage d'encre électronique.
En fait, il n'y a qu'une seule encre électronique. Ils travaillent tous avec l'encre de PVI, qui est le seul à avoir la licence. Voilà, donc ça, c'était pour le Sony, qui arrivera donc, et qui est encore perfectible, notamment dans son feuilletage.
Excuse-moi, je suis un peu perdu depuis le début.
Oui.
En fait, les readers, c'est un truc qui te permet c'est quoi? C'est des livres électroniques sous forme de disquettes ou de clés USB?
Parce que Sony, il y a besoin d'une clé USB pour effectivement aller récupérer les ouvrages que tu trouves sur des sites, notamment Amazon, etc. Et le Kindle, qui est le produit qui est lui, enfin l'autre leader produit par Amazon.
Reader, vas-y, dis-le plus vite.
Je sais, c'est difficile.
Reader.
Je ne vous ai pas encore parlé de DRM, etc. Mais bon. Donc, lui est en Wi-Fi, donc on peut récupérer, comme d'ailleurs un des Français, et j'y viens. Donc, parce que le Kindle, donc c'est pareil, hein, ils en ont vendu 10 à 20 000 exemplaires, on ne peut pas dire que ce soit quand même, les gens se soient jetés dessus aux États-Unis, même si pour eux, c'est quand même. Bon, il faut dire que ces petites choses-là coûtent entre 250 et 300 euros. En France, on en trouve deux, donc qui nous ont été présentés. Donc le Bookin, qui est une société française, voilà, qui a créé le Cybook Gen 3, 175 grammes, écran 6 pouces, autonomie de 4 jours, et on peut lire 8000 pages durant cette autonomie. Voilà. Donc là, c'est un support qui coûte 350 euros. Et là, ils espèrent en vendre 10 à 20 000 par an. Et c'est déjà vendu chez quelques libraires.
Mais t'as parlé d'écran de télécran tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'écran, il a un aspect particulier. C'est pas comme l'écran d'ordinateur qu'on a là, par
exemple. Non. C'est quand même, si c'est pas encore l'idéal, c'est quand même d'une très très bonne lisibilité. C'est du noir et blanc. La couleur, ça va être long à arriver encore. La couleur et le flex, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des prototypes qui commencent, notamment d'encre électronique, d'écran souple qu'on peut donc tordre et mettre dans sa poche.
Ah ouais.
Comme un journal. Ça va arriver bientôt.
Ce que je veux dire, c'est que si c'est un écran, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'encre électronique? C'est pas comme un écran ordinateur. C'est pas le même système de balayage,
non,
etc. En
non,
fait.
Non,
d'accord.
Non. C'est vraiment une encre particulière, c'est des contrastes. Et justement, elle est toujours perfectible, cette encre, tout le temps. Par rapport à ce qu'avait Cital avait présenté, d'ailleurs, Bookin, c'est celui qui avait lancé Cital, qui était le premier reader français. Ça faisait vraiment mal aux yeux, quoi. Il y avait un trop fort contraste. Là, ça a une apparence un petit peu grise, et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le livre, évidemment, mais il y a quand même un confort de lecture qui est gagné. Ce sur quoi ils essaient d'ailleurs. Enfin, toujours de travailler d'ailleurs pour l'améliorer, mais néanmoins, même en pleine lumière, tu arrives à lire. Voilà, après, c'est sur l'autonomie, c'est sur le temps de feuilletage, puisque il faut que le feuilletage soit le plus rapide possible.
Rapide que quand on tourne une page en papier.
Et que ça abîme pas l'œil non plus, parce que les feuilletages qu'on trouve sur internet avec le gros c'est assez abominable.
Voilà. C'est-à-dire que ça imite le feuilletage d'un livre.
Oui.
T'as comme une page qui passe quand tu passes.
Ouais.
Ah, d'accord.
Mais, très très rapidement. Ouais. Voilà. Donc là il y a donc le Bookin dont je viens de parler qui peut s'acheter je crois sur le site Bookin tout simplement, et puis chez quelques libraires paraît-il, mais enfin je ne suis pas sûre. Mais là il a un support PDF qui est un petit peu décevant. Voilà, parce qu'il y a aussi le problème des formats.
Il n'y a pas encore de format libre.
Alors il y a un format qui est en train d'être travaillé qui s'appelle l'EPUB. PUB, voilà, qui est une extension du format XML qui est en train d'être poussé par Adobe pour devenir le format universel qui sera le plus simple à utiliser.
Voilà. Donc un logiciel propriétaire, enfin un format
propriétaire. Et donc je vais très rapidement parler du deuxième qui est vendu en France, qui est l'Iliade, qui est fabriqué par la société IREX et qui est vendu par Les Échos, le groupe Les Échos, et qui permet donc d'avoir chaque jour, puisqu'il est avec Wi-Fi, donc les actualités, mais on peut aussi trouver donc les éditions On Attend, des guides du routard et 1000 ouvrages, voilà, qui peuvent arriver par Wi-Fi. Sinon, on peut aller acheter donc les livres gratuits. Il y en a certains sites qui donnent des livres numériques gratuits, ou surtout pour ce qui est des des titres qui sont dans le domaine public maintenant, ouais. ou payants. Et il y en a quatre, notamment mobipocket.com, Cyberlibris, Numilog, qui a 70 000 titres, Gutenberg.org. Voilà.
Puis il y a aussi les éditions
de l'éclat. Tu les as essayés, ces trucs-là, en fait ?
Il y a surtout, majoritairement des livres anglophones, en fait, sur ces sites, encore, parce que les éditeurs français sont un peu frileux et travaillent de leur côté sur également la numérisation. Mais ils ne savent pas... ils ne connaissent pas encore la distribution, ils ne savent pas comment gérer ces flux. On n'a pas encore inventé les métiers qui vont les libraires, quoi, en fait. Les gens qui vont gérer les flux, les distribuer, les amener, les médiateurs, les présenter. En fait. Les présenter, voilà. Donc, ça en est encore là, mais il commence à y avoir des éditeurs comme Bayard qui ont des collections que sur Internet, que tu peux soit lire sur Internet, soit télécharger, soit... je vais parler après de... des humanoïdes associés qui, eux, proposent des ouvrages gratuitement pour le téléphone portable. Voilà. Donc, ce qui est gênant avec ces livres numériques, c'est qu'ils ne sont pas soumis à la loi langue. Et d'ailleurs, ça donne une idée, en fait, justement, j'avais parlé déjà du problème de la loi langue. J'espère que je ne suis pas trop longue.
Qui est
la loi
sur le prix unique du livre. Voilà, la loi sur le livre est au même prix partout.
Donc, on voit très bien la dérive que ça peut avoir, en fait, si le prix du livre était libre en France. D'ailleurs, on le sait, en Suisse, en Angleterre, partout, dès qu'il a été libre, il a augmenté. Là, donc, on voit que ce qui est dans le domaine public, donc, est gratuit, forcément. Ensuite, ce qui n'est pas très, très intéressant... va être d'un coût de 6 euros par là, prix du livre de poche, quoi, 3,25 euros, 6, 7 euros, voilà. Et plus on est dans du best-seller, plus c'est cher. Donc notamment le Gavalda ou l'Élégance du Hérisson sont quasiment au même prix que le livre neuf, à 1 euro de différence, voilà. Donc ce qui veut dire que à partir du moment où on libéralisera le prix du livre en France, ce qu'on voudra acheter, sera trop cher, forcément. Voilà, bon, enfin ça c'est une dérive, voilà,
mais est-ce que tu dans la présentation là, est-ce que tu as saisi, enfin je sais pas, est-ce que moi ce que j'ai du mal à voir, c'est pourquoi qu'est-ce qui amène tous ces producteurs à faire ça, en fait? Est-ce que c'est un souci écologique? Ils se disent bon, on est en train de déforester, etc. Alors, donc il faut qu'on trouve une alternative au papier.
Alors ça c'est un gros argument
marketing.
mais j'avais envie de dire quoi. C'est Amazon, c'est pas détendre, hein, ils s'en foutent un peu de la planète
malgré leur nom.
Ils ont des pratiques sociales dans leur entreprise abominables, passons. Donc après c'est Philips, l'autre c'est pas, enfin bon,
pareil, on peut pas dire non plus que l'électronique soit quelque chose de spécialement écologique.
Ouais.
La production électronique, oui.
En fait, quand ils nous présentent ça, c'est vous vous imaginez, vous partez en vacances en Croatie et vous voulez emporter le tome 3 du Millennium, machin, voilà. Donc mais il y a aussi une chose, qui est vraie, c'est que à mon avis, le livre papier restera toujours le moyen de divertissement le moins cher et le plus pratique. Voilà. Mais pour trouver de l'information, pour transporter de l'information, pour tout ce qui est encyclopédie, dictionnaire, c'est sûr, ça va être l'encre électronique, ça va être le e-book qui va remplacer ça. Donc c'est aussi... d'ailleurs, ce pourquoi aussi j'en parle, c'est qu'il n'y a pas un très fort marché public actuellement pour les readers. Le plus gros marché, c'est du B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire c'est fait pour les échos, par exemple.
Ah oui.
C'est par l'intermédiaire des échos qu'on va acheter ce reader, parce que il y aura ce fabricant qui fabrique pour une autre entreprise et qui va donc améliorer un service aux clients, puisque... Voilà. D'ailleurs, ça coûte très cher.
C'est un service de stockage d'informations. C'est pour ça que les journaux quotidiens commencent à faire des partenariats comme Le Monde avec le Kindle pour vendre leur édition électronique par des e-books, proposer des abonnements.
On dit que les magazines, d'ici peu, dès qu'il y aura l'encre, dès que ce sera flex, seront maintenant électroniques, quoi. Enfin, seront plus papier.
Mais par rapport à ce que tu disais, je pensais aussi aux livres de sciences sociales et universitaires qui sont souvent difficiles à trouver. Peut-être que les éditeurs, en tout cas les éditions purement universitaires, ne l'auront plus d'avenir papier.
Il y a déjà des choses merveilleuses, quoi. Par exemple, le projet, c'est le projet Gallica 2. Donc c'est la Bibliothèque nationale qui a numérisé son fonds et qui propose également 2000 œuvres. Donc le fonds de la Bibliothèque nationale, c'est qu'on peut avoir comme ça gratuitement, aller chercher des... On a donc scanné des très 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 vieux livres. Donc c'est...
Les choses qu'on peut mettre 3 jours à avoir dans les mains, oui, on les aura en un clic.
Ou alors faut aller à Paris, ou alors voilà. Donc ça, il y a quand même, bon, faut pas cracher tout.
Le progrès n'est pas toujours mieux.
Voilà, c'est ça aussi. Alors il y a du progrès, mais bon, voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue, parce que j'avais aussi envie de parler d'autres choses, toujours sur Internet, mais peut-être on va peut-être écouter un peu de musique avant. J'avais envie, bon, puisque je vais parler d'un phénomène japonais, on va donc écouter un autre phénomène japonais qui s'appelle Cornelius, qui fait de la musique électronique. Le morceau s'appelle I Hate Hate, et puis on écoutera un petit peu, parce que ça s'enchaîne bien, du morceau du suivant, pour voir que en fait il fait des choses un petit peu ouch, et puis aussi des morceaux un peu plus calmes, voilà.
Un petit peu en fond
Cornelius. La chanson s'appelle Brazil.
Ah, c'était pour ça.
Oui, c'est un remix.
Ta 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 ta. On est là pour ça sur Radio Pulsar.
Brazil.
Non, mais c'est pas Brazil, on était au Japon.
Ah oui, pardon. Oui, d'ailleurs. Là, on va un peu faire quelques petites. Enfin, bon, j'avais envie aussi de parler de la littérature, la nouvelle littérature électronique, celle qui se crée directement sur Internet. Et voilà, donc on peut dire que Internet a transformé les pratiques d'édition, on l'a vu, de lecture avec les readers, etc., mais aussi les pratiques d'écriture. Et on voit, enfin, il y a énormément de blogs, par exemple, en bande dessinée qui sont intéressants. Il y a,
en littérature aussi.
Alors, je vais en parler après. D'abord, la bande dessinée, parce que c'est, je crois, hein, je vais pas, mais c'est les premiers qui ont été édités sous format papier, comme Kochalka, etc. C'est-à-dire que c'était du blog et Consécration Suprême, ils sont passés en format papier. Mmh. Voilà. Ça fait ce chemin-là. Voilà. Donc, et il y a certains éditeurs, je crois que c'est toi qui m'avais dit, Thomas, qui publie d'abord leur manga sur Internet, voit si ça marche et ensuite les passe.
Ah non, c'était. Oui, c'est ouais, pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai vu un peu en visitant en Corée, en fait, c'est que finalement, il n'y a pas de fanzina vraiment papier. Ça commence à venir, mais c'était à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas de fanzina papier. Et la prépublication, ça se faisait par blog, en fait. Ah, il y avait des gros sites, mais vraiment, il y a Yahoo et des choses comme ça. Et donc, les éditeurs allaient piocher là-dedans, si tu veux, plus que dans, comme ils feraient chez nous. Enfin, maintenant, ils le font sur les blogs, mais pendant très longtemps, ils l'ont fait par fanzine ou magazine interposé.
Voilà, donc c'est un des exemples. Par exemple, je voulais parler aussi des humanoïdes associés.
Nos copains, les humanoïdes associés.
Voilà, qui sont une maison d'édition. Non, juste pour dire qu'ils proposaient des vidéos BD, c'est-à-dire qu'on allait sur leur site chercher le premier tome de la série Megalex qu'ils offrent, de Jodorowsky et Beltran, et qu'on peut le télécharger gratuitement sur son Pocket PC, son iPod ou son téléphone portable. Voilà, et chaque strip est mis en scène, on enlève les bulles, on fait des zooms, on fait parler des acteurs, on met de la musique.
Déjà que c'est une BD pompière, alors en plus, on se fait des zooms dessus.
Et surtout, alors là, je suis allée voir si la chose la plus horrible, c'est que ces messieurs, parce que là, ça commence par des hommes qui se déshabillent, etc. Ah, on a caché leur sexe, et ben non.
Caché leur sexe. Ouais. Avec des petits carrés, genre.
C'est pas Ralph Koenig qui aurait fait ça.
En fait, c'est un gros diaporama en 3D avec des couleurs. Enfin bon, bref, c'est pas très intéressant. Alors, par contre, ce qui se passe sur Internet, donc il y a des écrivains débutants qui commencent donc à écrire sur Internet, et puis des romanciers connus aussi qui investissent le web pour explorer toutes les possibilités de création et surtout d'interaction avec les lecteurs, bien sûr. Et on peut dire qu'ils posent là les jalons d'une nouvelle littérature numérique. Donc, il y a des sites d'auto-édition et d'impression à la demande, comme le fameux lulu.com qui est connu dans 80 pays et qui était d'ailleurs présent au Salon du Livre de Paris et qui regroupe en France 11 500 auteurs qui ont déjà donc édité 20 000 manuscrits en 2007. C'est-à-dire que tu envoies ton manuscrit et lulu.com te l'édite. Voilà, comme
sur le site.
Avec c'est print on demand. Sur le site. Mais des expériences intéressantes par des auteurs reconnus. Il y en a un qui s'appelle Walter Kinn, qui a écrit donc son livre sur Internet par épisode en 2006, où il a sollicité les lecteurs pour leur opinion sur la direction que devait prendre l'histoire. Voilà. Il qualifie ça d'atelier flottant, et certains lecteurs ont même participé à l'écriture, en écrivant des lettres. Voilà.
Tu sais que ça avait été fait, ça, dans À suivre ? Il y a un petit moment déjà, il y a bien 15-20 ans, il y avait Cadello, un auteur italien, un petit peu pompier aussi, qui avait bossé avec Jodorowsky, et il avait fait Envie de chien. Tu t'as dit quelque chose ?
Non, ça me
dit. Et en fait,
rien.
Il sollicitait les lecteurs aussi.
Ah, oui.
Il sollicitait ses lecteurs pour savoir ce qu'ils avaient envie qu'il se passe. Enfin, peut-être je sais plus trop s'ils choisissaient entre plusieurs options ou pas. Voilà, ouais.
Ah oui,
un peu le même principe.
C'est un système de courrier des lecteurs qui existe aussi. Ouais.
Mais je me demande, ça a peut-être été fait en roman, même d'ailleurs avant, j'en sais rien, je sais pas trop.
Je peux pas te dire, je sais pas.
Ouais.
Peut-être, enfin, chez les surréalistes, oui, mais
enfin,
phénomène comme ça, d'écriture automatique.
Non, mais tu as une écriture où tu sollicites le lecteur pour savoir
faire
voter ou quoi. Je sais pas si ça existe.
Non. Donc, je voulais parler de ce que permettait l'interactivité dans une écriture numérique. Donc, comment le lecteur, enfin, pouvait intervenir dans un texte. Il peut le faire par des liens hypertextes. C'est-à-dire, enfin, vous connaissez tous, on lit, et puis paf, on clique sur un mot, et là, il y a un lien hypertexte, arrive un autre texte. C'est moins polluant, en fait, que de faire des notes en bas de page. Donc, il y a ça aussi.
C'est pas très interactif, c'est plutôt passif, là, en conçu.
Tu peux rajouter des liens hypertextes sur le texte. T'es pas obligé de transformer sa phrase
noter,
mais à noter, une autre chose que peut permettre justement l'écriture numérique, enfin sur Internet, cette littérature numérique, c'est la temporalité. Puisque ça se fait quasiment en temps direct, ton héros, tu lis le héros, est allé voir un film, par exemple, je sais pas, Darjeeling Express, voilà. Et toi, tu l'as vu aussi presque quasiment en même temps que lui. C'est de ce film dont tu parles en même temps que tu lis, voilà. Donc là, tu peux rajouter un lien hypertexte en disant, ouais, moi aussi à la machine à café, j'ai vachement aimé ce film. Enfin, bon, j'en ai parlé avec mes collègues. Enfin, bon, tu vois, bon, ça, là, c'est pas très intéressant. Blog, voilà, ouais. Mais bon, il peut y avoir des choses plus intéressantes que ça, effectivement. Ça permet évidemment un feedback immédiat. C'est-à-dire on sait tout de suite si ça accroche, si ça accroche pas. Hein, lorsqu'on on se met quand même dans un sacré état de fragilité hein, quand on est auteur et qu'on fait ça, hein, parce que on est là ouvert à tous. Ouais. C'est pas évident. C'est Elfriede Jelinek qui en parle puisque elle a écrit cette fameuse auteure autrichienne, romancière autrichienne qui a écrit La pianiste. Et qui est assez un petit peu en opposition avec elle est assez rude comme auteur. Je sais pas si vous connaissez La pianiste, voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose pas mal au gouvernement, et là donc elle de son pays, l'atmosphère, et là bon, elle écrit son nouveau livre. Elle a déjà fait 5 chapitres, mais c'est pas fini en fait, sur internet comme ça, avec ce feedback, ou elle appelle ce feedback. Et puis il y a une chose aussi très très importante dans cette, enfin, que permet l'internet dans cette littérature numérique, c'est le multimédia. C'est-à-dire que on peut agrémenter de sons, d'images, évidemment à condition que le matériau ait une fonction dans le récit. Si c'est pour faire joli, c'est pas la peine. Et on peut donc comme ça mélanger cinéma et littérature sur un même support. Et là on se rend compte, quand on voit les expériences de ces littératures, que ça marche bien quand, à l'origine, il y a un véritable écrivain. Parce que sinon, c'est l'échec, comme a fait Penguin, qui a tenté une expérience de roman collaboratif.
Collaborationniste.
Voilà, ou collaborationniste, voilà, en 2007.
Ils avaient qu'à pas l'appeler Biff Pétain.
Voilà, donc qu'ils ont appelé donc un wiki-roman, puisque c'est le nom du système de gestion des contenus sur lequel les contributeurs donc, ont pu intervenir. Donc voilà, ça s'appelle A Million Penguins, et ça a donné donc un texte fluff totalement incompréhensible, où chacun a apporté son petit bout sans penser à l'ensemble, donc c'est totalement raté, et on s'aperçoit que quand même l'imagination a besoin de rigueur et de structure quand même, enfin en tout cas de se lire. Il y a eu la même expérience en Espagne, là ils appellent ça Wikinovella. Et puis aussi en Italie avec le groupe Kaizen, qui eux proposent des débuts de romans et les internautes suggèrent la suite. Voilà, donc
ça va
ça m'émeut.
Donc bon, sinon je peux encore parler de deux choses sur l'écriture numérique. C'est la Chine, parce qu'on se disait oulala, vu qu'en Chine les écrivains sont des écrivains
morts,
presque, non, mais d'État, des fonctionnaires, et les Chinois vont avoir des choses à dire, ça va, voilà. Donc effectivement, il y a eu tout de suite sur Internet là, 1 million d'écrivains qui sont arrivés, et un feuilleton donc en ligne qui est devenu un best-seller. Mais et bon, c'est pas des gens qui cherchent la célébrité ou la fortune, peut-être comme on pourrait le penser en Occident. Eux, ils crachent vraiment ce qu'ils ont à dire, enfin ils en ont vraiment besoin, c'est nécessaire. Malgré ça, il n'y a pas d'éditeur, donc c'est pas terrible. C'est vraiment.
C'est-à-dire que un feuilleton en ligne qui a eu énormément de connexions. De
voilà, qui a bien marché.
Mais
tout le reste,
c'est pas
très bon.
Ah oui,
voilà, c'est pas très bon. Ceux qui éditent des revues en Chine sont allés chercher les nouveaux talents là et ont été déçus. Et ça joue pas d'ailleurs en faveur de la web littérature, forcément. Et ce qui joue encore moins en faveur de la web littérature, c'est ce dont je vais parler et qui est vraiment un énorme phénomène de littérature numérique, c'est le Ketai Shisetsu, qui donc existe au Japon, qui est un roman écrit et diffusé sur les téléphones portables. C'est quelque chose qui est totalement formaté pour les adolescents japonais, qui sont donc le nez sur le téléphone portable en permanence. C'est écrit par des gens en général nés dans les années 80 qui publient sous pseudo, et c'est tellement énorme qu'aujourd'hui ça sort après en papier hein, quand ça a vraiment accroché. Ça coûte 1000 yens environ, hein, donc 7,50 euros. Donc pour en acheter un sur son téléphone portable. Non, mais c'est parce que 1000 yens ça fait 50 francs, et c'est beaucoup plus facile quand tu comptes quand tu es au Japon que de 7 euros, que de multiplier par 7. Voilà, bon bref. Donc c'est un chiffre. Voilà. Donc il y a eu donc des romans qui ont très très bien marché, qui ont eu beaucoup de connexions, beaucoup d'achats, qui ont été édités en papier. D'ailleurs, aujourd'hui, sur les 10 best-sellers japonais, il y en a 5 qui sont issus du Kétai Shosetsu. Et il y en a même qui sont adaptés au cinéma. C'est des millions de lecteurs, hein, des millions en papier. Donc, on imagine ce que ça peut être sur téléphone
papier, mais
portable.
Mais peut-être qu'ils avaient aimé sur le téléphone et qu'en papier, ils ont trouvé ça nul.
J'ai pu comprendre parce que c'est assez étrange. Enfin, j'en ai des extraits. Là, c'est beaucoup de dialogue. Mais surtout, qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Eh bien, on y trouve rien. C'est formaté pour des adolescents issus de la crise qu'il y a eu au Japon, donc qui vivent dans des familles précaires, dans une société donc qui est quand même basée sur la consommation. C'est pas évident. Donc ça joue sur des sentiments. En général, donc c'est lu par des gens de 15-18 ans. Ce sont des héros qui sont sans saveur, sans odeur, qui c'est un homme et une femme, un jeune homme et une femme, qui se rencontrent et qui vont vivre, des histoires d'amour et de grands sentiments. Le lieu n'est pas indiqué, ils n'ont pas de passé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout. Et comme ça s'adresse à ceux qui vont le lire, il n'y a plus du tout de distance entre celui qui l'écrit et celui qui le lit, puisque ces jeunes aiment ça, parce qu'ils ont le sentiment de lire leur propre histoire. Parce que c'est tellement désespérant de vivre au Japon, parce qu'aujourd'hui, quand on est un jeune, parce qu'on ne peut se confier à personne, parce que quand on est un jeune au Japon, s'il nous arrive des malheurs, c'est forcément notre faute, parce que c'est une société qui te dit que si tu as des difficultés, non pas à la communauté, mais à ton individu. Donc ils peuvent se confier à personne, ils sont souvent de grands désarrois, et ils se retrouvent donc face à des jeunes comme eux et qui vont élever les sentiments. Donc c'est essentiellement du sentiment sans écouter l'autre. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils se retrouvent à lire à la fois leurs propres histoires, donc ils supportent pas la critique, c'est pas la peine de leur dire que c'est pas bon, qu'il y a quand même mieux.
Pas la peine de parler littérature.
Ah non, c'est pas la peine. Et c'est d'ailleurs, ce sont des très gros, ceux qui les écrivent sont des gros gros lecteurs de manga. Hein. Mais c'est pire que le manga, parce qu'encore dans le manga, t'as un peu de substance, on va dire. Il y a des histoires,
enfin,
il y a du dessin, quoi. Là, c'est du dialogue. C'est du dialogue, c'est de la conversation sur SMS, c'est de la conversation de cours d'école. C'est assez grave,
mais c'est aussi basé sur un rythme court, non? Parce que si c'est lu sur un téléphone portable, j'imagine que ça doit être
oui,
des séquences de lecture
oui,
de moins de 5 minutes.
Je sais pas, si tu veux que je te lis, c'est style « Dring ! Qui peut bien m'envoyer un SMS à cette heure-ci ? Bip ! Haruna, pardon, mais je te quitte. C'est le garçon avec qui Haruna est censé sortir. Qu'est-ce qu'il a à m'emmerder ce matin ?» Et elle lui répond donc « T'inquiète, ciao !» Elle retourne immédiatement se maquiller. Elle vérifie que le fer à friser est chaud et se boucle soigneusement les cheveux. « Dring !» Réponse du garçon. « T'es horrible !»« Ah, désolé !» C'est tout ce qu'elle a écrit en réponse. Elle n'a pas reçu d'autres messages. Depuis ce moment, il est devenu un ex pour Haruna. Bon, là, c'est
C'est du soap roman.
Voilà. Donc, il y a des phrases du style « Même si la terre s'arrête de tourner, même si le monde s'écroule, je t'aimerai toujours. »
C'est pratique, on peut reciter pour envoyer un texto à n'importe qui.
Tu peux faire. Ben oui, voilà. Donc c'est vraiment, ils lisent ce qu'ils vivent, quoi. Il n'y a pas de distance. Alors il y a un seul petit espoir dans cette c'est que dans le dernier qui soit sorti, il y a une fille qui dit à une autre, est-ce que tu veux entendre mon histoire? Et l'autre lui répond oui, parce qu'en fait, ils se foutent des histoires des autres. Ils ne sont que dans leurs propres histoires, quoi. Voilà, c'est tellement en résonance avec ce qu'ils vivent. Voilà, y a aucun effort d'imagination. Quand on lit, la littérature, c'est quoi ? La littérature, c'est pour exprimer le monde.
En fait. C'est valide, quoi.
C'est pour, et puis aussi se confronter. Ça demande un effort d'imagination de lire. Quand même, ça demande un effort. Bon. Avec tes yeux pour lire, mais aussi d'imagination, ce que ne font plus les jeunes japonais aujourd'hui, à l'heure actuelle. Voilà.
Et c'est juste pour finir, avant qu'on coupe peut-être un peu,
vas-y.
Ça me fait penser que, moi, quand tu m'as parlé des formes sur téléphone portable et tout ça, tout de suite, je me suis dit, tiens, le haïku, enfin, s'il y a bien un art aussi littéraire japonais et poétique, c'est la forme courte.
C'est merveilleux avec le Japon.
C'est qu'il y a aussi plein de choses. Non, mais j'ai lu juste, c'est dommage, j'ai perdu son.
Pardon ?
Non, j'ai lu qu'il y avait récemment publié aux éditions Philippe Piquet, ou incessamment sous peu, une jeune professeure de 24 ans qui a fait des poèmes de forme courte comme ça et qui se sont aussi énormément vendus, mais des tankas, avec plein de règles, comme le latin, c'est bourré de règles et de contraintes. Et elle a fait ça, des poèmes avec ces contraintes-là qu'elle respecte pour exprimer sa vie et ses sentiments, et que visiblement c'est d'une haute qualité littéraire, et que ça, tout en parlant de maintenant, ça joue avec justement la culture antique. Et ce sont des formes courtes. Et donc je me suis dit, bah voilà, courte, un poème qu'on peut s'envoyer aussi par SMS, enfin des choses un peu d'autres échanges, quoi.
La littérature japonaise, c'est essentiellement une littérature de sensations. C'est pour ça que ça a mis du temps à pénétrer les esprits français. Il y avait, quand je crois que c'est Kawabata a eu le prix Nobel, en France, des gens comme celui qui a écrit la cantatrice chauve...
Ionesco.
Voilà, tu vois, Ionesco a dit, c'est quoi Kawabata, c'est même pas facile à prononcer, c'est pas du tout... Voilà,
Ionesco,
alors. Bah oui, il y avait quand même ce genre de réaction, parce que c'est une littérature d'impression, de ressenti, de... Enfin, je parle de cela, même si ce sont pas mal, ils ont lu la littérature occidentale, il y a quand même ça très fort chez les Japonais. Et le haïku, c'est vraiment ça, c'est la forme suprême, quoi. À côté, le keitai shusetsu, c'est la forme la plus merdique. Mais c'est ça le Japon. C'est un mode de voilà.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre, et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qu'avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. De hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain, on la ferait claquer dans nos mains, la mitraillette. Faut dire que les syndicats bordels nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette, curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas nos temps qui belle. Viendra la fête, il y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête, Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie, la mitraillette. On en refilera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillette.
C'était La Mitraillette, mais vous avez reconnu, c'est un remix aussi.
Ah oui,
c'est un remix de Pierre Barou, qui était parmi nous samedi dernier. Voilà, qui est venu jouer, chanter à Poitiers. Et c'est sur un disque de chansons anarchistes, ni Dieu ni Maître.
Original. Et sinon, dans la continuité de ces histoires de progrès et de e-book, etc., j'avais envie de sortir un petit livre intempestif, comme pourrait dire notre ami Nietzsche. Un livre que j'ai récemment réédité aux éditions A plus d'un titre, qui est en fait une librairie à Lyon et qui fait aussi maison d'édition quand elle a envie de publier des textes importants. Donc, elle a édité ce petit livre d'Ingmar Grundstedt qui s'appelle, son titre est éloquent, « Du chômage à l'autonomie conviviale ». Et ce texte date donc de 1982. Et donc, il y a un petit préambule de l'auteur qui explique que, bon, certes, par beaucoup d'aspects, c'est un texte assez daté. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est son caractère utopique. C'est qu'en gros, il dit, si ce texte est là, c'est qu'il répond à une question. Et à une sorte d'angoisse. Enfin voilà, la société, ça va mal, il y a du chômage, on nous abrutit, il y a de l'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité déjà en 82. La violence, enfin voilà, on se préoccupe, on sent bien que tout est lié et que l'individualisation croissante de la société, les Japonais et les autres, font que ça va pas bien. Et ça pourrait aller mieux pourtant, et surtout par rapport au travail, justement cette angoisse du chômage qui commence à arriver en 82, la remarque d'Ingmar Grandstedt, c'est qu'on pourrait travailler moins.
C'est arrivé dans les années 70 en fait, 74.
Ouais, voilà, lui il prend la suite de ces théories-là, en disant qu'en gros, une usine qui ferme, ça n'a pas toujours été la catastrophe. Il cite à plusieurs reprises l'exemple de Los Angeles en 45, qui a vu fermer une usine, je ne sais plus de quoi d'ailleurs, et tout le monde s'attendait, c'était une usine d'un gros bassin industriel, tout le monde s'attendait à ce que la ville plonge. Et en fait, assez vite, les ex-travailleurs se sont organisés pour faire leur petit jardin ouvrier, comme en Roumanie d'ailleurs, tous les Romains ont leur petit jardin avec des salades, des choux et tout ça. Soit aller voir les voisins quand ils étaient malades avant d'aller chez le médecin, ont réparé eux-mêmes leur voiture, enfin bref, se sont formés. Et Ingmar Grandstedt dit voilà, c'est aussi un réflexe quand on n'est pas trop individualiste de s'organiser pour survivre et donc d'apprendre à gérer par soi-même des choses que d'habitude on échange contre de l'argent, et cet argent il faut le gagner, donc on doit travailler plus. Donc si on décidait de travailler moins et de produire soi-même des choses que d'habitude on est obligé d'acheter, peut-être que ça irait mieux. Et c'est ce qu'il appelle les activités vernaculaires, et qui réduit en gros à quatre domaines, donc se nourrir, se soigner, réparer des choses, c'est un peu l'apprentissage technique, et j'ai oublié le dernier. Des domaines dans lesquels... se nourrir, se soigner, réparer des... Enfin voilà, apprendre la technique, et je sais plus quoi.
Se former, s'éduquer.
Ouais, mais s'éduquer, c'est global. Enfin, c'est un peu une démarche d'université populaire, enfin, de savoir partager. Et il donne une méthodologie pour, ni plus ni moins, démanteler la société industrielle. Mais oui, en 3 chapitres. Et en gros, si on se débrouille bien, en 5 ans, on arriverait à foutre en l'air tout ce bazar qui nous embête. C'est assez rigolo parce qu'il explique, on peut donc faire son potager, demander aux voisins. Et il rationalise assez les choses. Il calcule le temps que prend d'aller acheter des choses tout seul pour se nourrir, alors que à plusieurs on gagnerait tant de temps. Il calcule vraiment au fur et à mesure de l'apprentissage de certaines choses et du partage de certaines tâches. Qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes fabriquer par rapport à une technique industrielle, qu'est-ce qu'on peut pas. Par exemple, un e-book, on peut pas tout de suite. Bon, mais c'était pas à l'époque.
Mais c'est vraiment utile. Hein.
Mais voilà, le premier tri, c'est aussi celui-là, est-ce utile ou pas utile. Et je trouve que ce petit livre est vraiment riche d'enseignements. Bon, pour ce côté d'utopie. Et puis
utopie réussie d'ailleurs, puisqu'il y a un exemple.
Oui, il y a l'exemple du 45. En même temps, on réussit, on peut pas dire que ça ait rayonné sur le monde entier.
Non.
Mais en tout cas, ça donne pas mal d'espoir par rapport à l'espèce de sinistrose, à la peur du chômage, de l'inutilité et à ces messages de consommation qu'on nous envoie à tire-larigot, à lire pouvoir d'achat et non pas service public et non pas justement soins, droit au logement, communauté, société, quoi. Ce livre répond juste, voilà, c'est quoi les besoins des hommes, c'est pas acheté, et justement réduisons notre pouvoir d'achat, réduisons notre besoin d'achat plutôt, et vivons nettement mieux.
C'est déjà dans 0,2 quoi.
C'est un peu dans 0,2 et ça fait penser, mais alors un autre livre que j'ai pas encore lu mais que j'ai commencé dans la suite logique, c'est de Serge Latouche, Le petit traité de la décroissance sereine, parce que ma foi, là, ces idées d'autonomie conviviale, c'est repris, je crois, assez largement par maintenant ce qui est devenu un peu une théorie de la décroissance, plutôt de la croissance, croissance, comme dirait Serge Latouche, qui est
Je disais en 0,2 en référence donc à l'an 0,1 de GB, mais dans l'an 0,1 en fait ce qu'il dit c'est voilà ce qu'il faut faire, on arrête tout, et on réfléchit quoi, on arrête tout, on réfléchit, on va voir, donc ce serait un peu comme si lui il avait vécu l'an 0,1 et puis qu'il essaie de voir comment on pourrait se débrouiller maintenant.
Sauf qu'en plus il dit réfléchissons quand on est foutu dehors, enfin en gros quand on est au chômage, t'es obligé de réfléchir quoi. T'es au pied du mur, réfléchis, débrouille-toi et va voir les voisins.
Mais si les voisins t'acceptent aussi, parce que là on est depuis quelques années donc dans un langage du pouvoir qui a fait basculer en fait une crainte de l'insécurité vers un problème de pouvoir d'achat grâce à un langage donc de soit un bon travailleur, consomme et un bel haut-parleur donc la télévision avec des émissions qui valorisent en fait comme le maillon faible ou Koh-Lanta qui sont les émissions préférées des lycéens paraît-il, qui valorisent en fait c'est le plus nul qui doit gagner quoi. Voilà. Donc c'est à partir du moment où t'es trop communautaire, enfin mais ça doit rentrer quand même quelque part ce genre de message.
Oui, je pense qu'il y a une décrédibilisation
Et puis il n'y a plus d'utopie. Il n'y a plus d'utopie, exactement, décrédibilisation du collectif et fin des utopies. Il y a encore.
Et donc, toi, tu voulais nous lire un passage, non?
Bah, je ne sais pas si j'aurais trop le temps d'en lire un.
On a 5 minutes, quoi.
Ouais, mais à vrai dire, j'en avais pas sélectionné tellement. À part si, peut-être le début du troisième chapitre, parce que c'est rigolo. Troisième étape, donc. Engager un démantèlement sélectif des filières industrielles. Nous arrivons à la troisième étape de la démarche de technopolitique de désindustrialisation. Celle-ci commence 3 ou 4 ans après le début des expériences locales. Mais rien n'empêche d'y réfléchir éventuellement plus tôt, à titre exploratoire, si le cœur y est, d'autant plus que les premières réappropriations de technologies mettent déjà sur la voie. Il s'agit là de s'attaquer au gros des technologies industrielles, celles qui paraissent incontestables a priori. Les équipements produisant corps gras alimentaires, bière, verre creux, emballages, cycles et véhicules utilitaires, matériaux de construction, radios, téléviseurs, équipements ménagers électriques, produits de la parachimie, bref, tout ce qui nous semble en l'état actuel des choses ne pouvoir être fabriqué raisonnablement qu'avec des outils industriels. Et maintenant, on se débrouille tout seul.
Si c'est ça me fait penser à autre chose, mais c'était j'avais lu une nouvelle de Philippe K. Dick, donc l'écrivain qui a écrit Ubik, qui a inspiré aussi Blade Runner, tout ça. Et il avait fait une nouvelle en fait où c'était la Terre se retrouvait occupée par des extraterrestres bienfaisants. Qui était immense apparemment et qui pourvoyait à tous les besoins de l'homme en fait. Mmh. Et donc en fait t'avais besoin d'une voiture, t'allais voir l'extraterrestre qui te la fabriquait aussitôt, etc. Et en fait finalement les objets que fabriquaient les extraterrestres se dégradaient très vite au fur et à mesure, plus ils en produisaient, plus ils se dégradaient en fait. Et du coup au bout d'un moment ça devenait un petit peu comme pour Fahrenheit 451, sauf que c'était pas les gens qui avaient appris par cœur des livres qui se retrouvaient à la fin, mais les gens qui commençaient à réapprendre à fabriquer des choses eux-mêmes, quoi.
Et donc c'est exactement la logique de Rodolphe Töpfer, du progrès qui annihile, qui donne de l'immédiat, là où au contraire la médiation est formatrice, si je puis dire.
Ouais. Tout à fait.
Donc à travers l'image extraterrestre, je pense que c'était une critique aussi de la société de consommation. Tout ça, quoi.
Il y avait un titre aussi qui est paru dans ces années-là, peut-être dans les années 70, qui s'appelait « Travailler 2 heures par jour en point seuil par Adré en collectif ». Qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque.
J'aimerais bien retomber sur ce titre.
Je vais te l'apporter.
Bien. Je vais chez moi. Par jour. Oui. Et toi, tu pensais, tu rebondissais sur le langage, idéologies qu'on nous.
Oui, le manque d'utopie aujourd'hui, quoi. Le langage du pouvoir, parce que dans le cadre de la manifestation Voix publique, j'ai assisté mercredi dernier à une rencontre avec Philippe Godard, qui vient d'écrire un livre dans la collection Crible chez Cyrus qui s'appelle Valeurs, Travail, Identité Nationale. Son travail, c'est un peu là décrypter les messages du pouvoir, en fait, les discours de Sarkozy, sa politique, etc. Et notamment sur l'identité nationale, puisque c'était un petit peu le thème. Voilà, donc c'est tout ce qu'il dit d'ailleurs est vrai. Et bon, par exemple, l'exemple plus frappant, c'est le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Enfin, c'est 4 choses qui sont quand même super importantes et qui sont bien. C'est bien. Bon, voilà, si t'es un immigré, t'as pas d'identité nationale, c'est bien séparé, quoi. Et pourtant, c'est un ministère qui est très important. Enfin, il dit des choses, par exemple, pourquoi on décide de faire partir 25 000 et pourquoi décider d'un objectif pour 2007 de 25 000 éloignements, expulsions. Enfin bon, là, on part, c'est plus sur c'est du tout le ton de thème, là, on passe à un petit peu à autre chose, mais voilà, pourquoi, qui a déterminé ce chiffre? Comment on peut savoir combien il y a d'illégaux en France? On ne le sait pas. Si ça se trouve, il y en a beaucoup moins. Bon, puis on en a quand même expulsé 23 000. Hein. Bon, il dit des choses. C'est lui, justement, qui est allé dans les classes et qui a demandé aux enfants quelles étaient leurs émissions préférées, parce qu'un enfant, quand même, c'est un lycéen, un collégien, c'est 4 heures par jour sur TF1, aujourd'hui, en majorité. Donc, quelles étaient leurs émissions préférées? C'était donc Koh-Lanta et Le Maillon Faible, et en décortiquant, il a bien vu que ça véhiculait des valeurs anticommunitaires. C'est lui qui dit aussi que le pouvoir utilise actuellement beaucoup le mot immigré de deuxième génération, de troisième génération. Non, quand on existe, ça n'existe pas un immigré de deuxième génération, c'est un Français. C'est, voilà, donc par exemple, Sarkozy, ce sera un immigré de deuxième génération, parce qu'on a déjà dit ça, que Carla Bruni, c'est un immigré de première génération. Enfin, et pourtant, ce langage, on l'entend, et ça arrive à des choses où des jeunes, ils sont quoi? Leur identité, c'est quoi? C'est immigré, quoi. Voilà, ça réduit.
Et donc, on va créer un ministère pour leur expliquer qu'ils n'ont pas d'identité. en plus.
Oui, bah c'est bien. Et c'est quoi l'identité nationale? Et moi, par exemple, ça me brime, l'identité nationale. C'est plutôt brimant. C'est pas une identité nationale, j'ai une identité multiple. Voilà, faite de plein de choses. Bon, c'est quoi la France aussi? Voilà, par exemple. Est-ce que c'est on la date du temps de Clovis? Est-ce que, voilà, parce que ça n'a été que des mélanges. Comment on a traité les étrangers au fur et à mesure des gouvernements? Par exemple, lors de la Révolution française, on préférait élire comme député un Anglais ou un Allemand plutôt qu'un royaliste. Et puis, 10 ans après, non. 10 ans après, on tuait ces Anglais, ces Allemands. Ça devenait des espions. Enfin, et on fait ça aujourd'hui. Hein. On les prend, on les envoie, on les reprend.
On les choisit.
Voilà, je les trouve bien sympas, moi, finalement, tous ces étrangers qui viennent en France, tous ces migrants, moi, je les appelle plutôt. Puisqu'aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Voilà, donc là le livre qui est intéressant, c'est un livre qui est également destiné aux adolescents, qui s'appelle donc Valeurs, Travail et Identité Nationale de Philippe Godard, dans la collection Au Crible. C'est pas très cher, c'est 4,90€. Et tout est vrai, tout est vérifiable, voilà. Et puis, on peut acheter aussi, parce que c'est pas cher également, à 5€, Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi, d'Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau, parce que ce sont des francophones, mais pas de France. Hein. Et ils ont une autre manière que nous d'appréhender le monde et de la dire, et aussi de voir ce gouvernement et l'action de ce gouvernement. Parce que nous, malgré tout, on est quand même perméable à ce langage du pouvoir. Et des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas.
Voilà. Donc, en dehors de ces deux livres, Hélène, tu avais parlé donc de...
Du chômage à l'autonomie conviviale de Ingmar Grundstedt aux éditions à plus d'un titre.
Ouais, on a parlé aussi de l'an 01 qu'on a évoqué. On a passé donc Pierre Barou, La Mitraillette, sur le disque Les Chants de la Révolution, ni Dieu ni Maître. Alors, je ne sais pas quel est l'éditeur de ça. C'est pas marqué.
On le mettra sur le site onestlapourca.free.fr.
Voilà. Et puis, Emma, tu nous as parlé des e-books.
Oui, des readers,
des formes d'écriture sur Internet, en particulier
la littérature numérique.
Les romans japonais donc, oui. Pour les jeunes.
Hein. Le Ketai Kitsu.
Okay. On a parlé de. On a passé Cornelius. From
Nakameguro to Anywhere. Et Nakameguro, en ce moment, c'est le moment où les fleurisiers fleurissent. C'est magnifique. C'est un quartier de Tokyo super tranquille. Voilà.
On a passé donc nos formats. Une compile de nos formats, c'était Mamani Keita, je crois. Au début, tu as fait une lecture du Progrès de Rodolphe Stutzel.
Aux éditions Le Temps qu'il fait.
Voilà, c'était On est là pour ça. Et je vous passe une chanson d'une jeune immigrée espagnole.
Mille excuses, nous sommes
sur pause. Tu as mis sur
pause. Non.
Non.
Ah
si, j'ai mis sur pause, pardon.
Curso de español. Lección número 69.
Pasa de las chicas, tú pasa de las chicas, un día pasarán de ti. Tú pasa de las chicas, tú pasa de las chicas, algún día llorarás así. Yo lloré, pero ese día yo dejaré de llorar, yo dejaré de llorar.